par exemple par la contraception. Et l'amour conjugal risque d'être réduit à l'amour sexuel, et d'après les paragraphes 150 de la même exhortation apostolique, et le titre du chapitre est « La dimension érotique de l'amour ». Et dimension érotique, car évidemment dans cette perspective, c'est dans le sexe que l'amour conjugal arrive à son intensité la plus profonde. Et les péchés sexuels cessent d'exister en tant qu'acte moral intrinsèquement illicite au dehors du mariage. La morale est réduite aux intentions et aux circonstances. Et ce sont les intentions, les circonstances, c'est-à-dire la conscience et l'histoire, qui rendent bon ou mauvais un acte humain. Et la morale, à ce point-là, s'écroule. Mais je pense que les racines de ce processus, cet écroulement de la morale, la conséquence de l'écroulement de la métaphysique, qui s'est vérifié dans la pensée catholique déjà avant Vatican II, lorsque l'on a séparé la nature de la personne, lorsque l'on a nié le primat de la contemplation, lorsque l'on a affirmé le primat de la pratique sur la vérité. Et aujourd'hui, le bien et le mal sont dissous par un relativisme qui absorbe la vérité dans la praxis pastorale, une praxis qui ne nie pas explicitement la vérité, mais la met de côté. Et aujourd'hui, souvent, le monde ecclésiastique cesse de prêcher la vérité. Mais la vérité, qui est Dieu, doit être servie indépendamment de son efficacité pratique et de ses conséquences historiques. Vivre sans mensonge signifie vivre dans la vérité. Et vivre dans la vérité veut dire appliquer tous ses efforts pour la connaître et l'aimer. Paul Bourget a raison quand il dit qu'il faut vivre comme l'on pense, si l'on ne veut pas finir par penser comme l'on vit. Il ne suffit pas de connaître, il faut vivre, et il faut vivre d'une manière cohérente avec ses idées. Mais pour vivre de manière cohérente avec ses idées, il faut être des hommes de principe, des hommes de vérité. Et aux ères critiques de l'histoire, ce qui est le plus important est de remonter aux principes suprêmes qui ont en Dieu leur seule source. Les principes éternels, les vérités élémentaires sont l'actualité suprême des jours de crise et de danger. Nous aimons les principes en les connaissant et nous les connaissons en les aimant. L'amour pour la vérité qui se manifeste dans la lutte visant à la diffuser, à la défendre, est une anticipation sur cette terre de la joie immense que nous aurons au ciel lorsque nous contemplerons Dieu, vérité par essence, source de toute vérité, de tout bien, de toute beauté. Merci.
Monsieur le professeur, je crois que vous attendiez les questions et qu'elles ne vont pas tarder à arriver.
Je voudrais poser une question de base. Est-ce que le concile Vatican II est un concile dogmatique ou un concile pastoral, ou alors est-ce qu'il contient seulement une certaine partie qui est purement dogmatique? C'est la question de l'infaillibilité du pape, donc ce qu'il engage sur certains domaines, l'infaillibilité du pape, donc fait partie d'une fidélité. Et la même question sur le conseil, une encyclique en général, une encyclique peut être partie du.
L'encyclique, vous, lequel?
Oui.
Alors, oui. Et Pour déclaration officielle de Paul VI, de Jean XXIII et Paul VI, le concile Vatican II a été un concile pastoral. Donc, il n'y a pas aucun document qui, en soi, comporte l'infallibilité. Ce qui ne signifie pas qu'il, disons, dans les documents, il y a aussi des choses qui ont un caractère obligeant. Alors, quel est je vais expliquer, je donne un exemple qui n'est pas le Vatican II, mais vous avez soulevé les problèmes dans l'encyclique, par exemple, Humanae Vitae. Alors, l'encyclique Humanae Vitae en soi-même n'est pas un document infallible, c'est-à-dire qui n'est pas une promulgation extraordinaire d'une vérité. Mais en tant que sur le point où l'encyclique Humanae Vitae confirme la doctrine de l'Église, c'est-à-dire l'interdiction, la prohibition de la contraction artificielle, sur ce point-là, on peut parler d'infallibilité, mais c'est une infallibilité qui dérive pas de l'acte en soi-même, c'est-à-dire pas du fait que Paul VI a dit « moi maintenant je défine et je dis ça », mais dérive du fait qu'il existe aussi une infallibilité du magistère ordinaire, et donc le magistère ordinaire de l'Église pendant des siècles a toujours condamné la contraception, et donc l'Humanae Vitae réaffirme, répète, disons, le magistère, et dans ce sens-là, on peut parler d'un magistère infallible, infallible car confirmé par la tradition. Alors, en appliquant ça à Vatican II, disons, dans certains documents du Vatican II, il y a certaines choses qui confirment les magistères traditionnels de l'Église. On peut parler d'une valeur obligeante, mais cette valeur, disons, forte, dogmatique, ne dérive pas du document en soi-même, car tous les documents sont pastoraux, mais dérive du fait que ces documents répètent, réaffirment la doctrine de l'Église. Si au contraire, dans certains points, nous pouvons observer une certaine ambiguïté ou difformité avec la doctrine de l'Église, nous sommes autorisés à prendre les distances car il n'y a aucune force dogmatique. Moi, je ne suis pas un théologien, mais par exemple, le cardinal Brandmüller, qui est un savant, c'est un historien de l'Église qui a étudié tout le concile, a affirmé exactement ça. Par exemple, en parlant du cardinal Brandmüller de la déclaration d'Unitatis Humanae du concile Vatican II, il a dit qu'il s'agit d'un document qui n'a pas une valeur dogmatique, a une valeur pastorale. Donc, pastoral. Donc, on peut maintenir une certaine distance, une certaine liberté de discussion vis-à-vis à ces documents, à mon avis.
Monsieur Sabinet,
est-ce qu'il n'y a pas... Alors, je n'ai pas lu le traité du Concile et je n'ai pas encore lu la présentation à Maastricht, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie quand même dans tous ces textes? Parce que je pense notamment à l'exhortation apostolique, je ne l'ai pas lu, mais j'ai de commentaires dans votre et il semblerait que dans le même texte, dans le même texte, ou dans l'exhortation apostolique, vous citiez justement ce primat d'amour qui suppose que s'il n'y a plus amour, il n'y a plus mariage, donc qui prend le pas sur la vie et donc qui permet la contraception. tout ça indirectement. Et dans le même temps, me semble-t-il, enfin, dans ce que j'ai vu, le pape rappelle, dans l'exhortation, une sorte de, condamnation, je crois que c'est le mot qu'il emploie, de la contraception. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans le texte même une schizophrénie, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais c'est ce qui me vient, entre une pastorale et puis une forme de rigueur. Enfin, quand on entend les discours du pape actuel sur la famille ou même sur la contraception, on a l'impression d'une grande fermeté doctrinale. Et là, on a un texte signé de sa main qui sape un peu, donc c'est schizophrénie.
Mais moi, j'étais à Rome, donc j'ai participé à la présentation du texte qui a été fait par le cardinal Schönborn. Et dans cette présentation, le cardinal Schönborn a dit la clé pour comprendre cette exhortation apostolique, c'est que ces documents est avant tout il a utilisé ce terme exact, événement linguistique. Alors, c'est intéressant car il y a un jésuite américain, un historien jésuite plutôt progressiste qui s'appelle le père O'Malley, qui a écrit une histoire, un livre sur le Vatican II en soutenant la thèse que le Concile Vatican II a été avant tout un événement linguistique. Qu'est-ce que signifie que événement linguistique? Signifie que, normalement, le langage est l'expression de la pensée, mais il y a la pensée et après le langage, c'est-à-dire que le langage exprime la pensée. Mais il y a quelqu'un qui affirme le primat du langage sur la pensée, dans le sens que d'après les langages que nous utilisons, nous pouvons changer ou influencer la pensée. Alors, mais quand si nous parlons du langage, le langage